franceinter.fr.
Le feuilleton du fémur découvert avec Toumaï. Suite et sûrement pas fin aujourd'hui à la une de la science. Le crâne de Toumaï, vieux de 7 millions d'années, découvert au Tchad en 2001, est considéré aujourd'hui comme le premier représentant connu de la lignée humaine. Mais un fémur découvert sur le même site et dont aucune publication ne fait mention jusqu'à aujourd'hui est au centre d'une polémique depuis plusieurs semaines. Appartient-il à Toumaï? Remet-il en cause sa bipédie et donc sa place de premier ancêtre de notre lignée? La semaine dernière, à ce micro, le paléontologue Michel Brunet, qui est à l'origine de la découverte de Toumaï, s'est expliqué. Et c'est aujourd'hui ses détracteurs qui ont souhaité s'exprimer dans l'émission Axel Villard.
Oui, Daniel, nous sommes dans ce studio avec le paléoanthropologue Roberto Macchiarelli. Bonjour.
Bonjour.
Et Aude Bergeret, directrice du Muséum d'histoire naturelle d'une grande ville française dont vous avez souhaité qu'on taise le nom. Bonjour.
Oui.
Roberto Macchiarelli, vous êtes professeur de paléontologie et de paléobiologie à l'Université de Poitiers, rattaché au département Hommes et Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est vous qui avez sollicité l'équipe de La Tête au Carré pour répondre aux propos de Michel Brunet à ce micro la semaine dernière. Qu'est-ce qui a motivé cette demande ?
Je dirais là, plutôt qu'un positionnement en tant que détracteur, pas du tout, non. Il s'agit de quand même un peu changer cette culture de l'embargo, de l'antipartage de l'information. Nous avons voulu que déclencher une réflexion sur une découverte importante, un peu hasardeuse, comme il arrive souvent, qui pourrait nous amener beaucoup plus loin dans l'identification de l'identité elle-même du statut de hominine dans la nature. Donc c'est un débat déclenché.
On va y venir par la suite, mais vous avez souhaité surtout répondre à certaines accusations tenues contre vous à ce micro au sujet d'une fouille en Éthiopie en 2001. On vous écoute à ce sujet.
Oui, et Michel Brunet, dans la presse, si on la regarde avec attention, a prononcé différentes hypothèses et versions qui sont même contradictoires. À la fin, sur votre plateau, s'est référé à des fouilles en Éthiopie. Je n'ai jamais participé à des fouilles en Éthiopie dans le sens strict du terme. Je dois démentir formellement la véridicité de cette accusation et je l'invite à une attention majeure pour éviter de se décrédibiliser. J'ai des documents au niveau national et international. Pour le faire, je suggère de ne se pas lancer dans un de rester factuel sur l'histoire des fémurs, c'est beaucoup plus intéressant.
Alors justement, c'est ce qu'on va faire, rester factuel sur le fémur. C'est bien que vous ayez pu répondre à cette accusation qui était un petit peu plus personnelle à votre encontre. Voilà la parenthèse entre guillemets et parenthèse entre guillemets, faut le faire. Enfin, en tout cas, c'est refermé et on va se concentrer peut-être un peu plus sur, parce que là, on est vraiment au cœur de la science et à la fois de l'histoire de l'humanité et aussi de la façon dont la science est en train de se faire. Alors ce fémur, pourquoi on en a entendu parler que si tardivement et qu'est-ce qu'il nous permettrait de savoir de plus ?
Et c'est pas exact ce que vous dites, dans le sens où la presse n'a pas parlé de ça, mais chez les spécialistes, on parle depuis 2004, donc c'est un sujet sensible, traité dans la littérature internationale, ce que nous a finalement obligé en quelque sorte à cette réflexion que nous avons ouvert, pas avec la presse, mais dans un colloque CNRS de réflexion sur l'origine de l'homme, un appel à contribution lancé en 2016. Donc j'ai adhéré à cette initiative. J'avais siégé pour 4 ans dans un comité national CNRS et j'ai retenu intéressant de parler de ça dans le périmètre. C'est la presse qui est venue après.
Roberto Macchiarelli, je pense que pour que tout le monde comprenne l'histoire, le mieux ce serait de la raconter. Et donc on va se tourner vers Aude Bergeret. En 2004, vous étiez étudiante en DEA dans le laboratoire de Michel Brunet.
C'est ça.
Toumaï a été découvert en 2001, donc c'est 3 ans après. Mmh. Et vous redécouvrez ou découvrez, et tout dépend des versions, cet os. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Alors en fait, j'avais du matériel à ma disposition pour l'étude que je menais, qui était une étude, comme l'a dit Michel Brunet la semaine dernière, en taphonomie. Donc pour les gens qui n'ont pas écouté, en gros, c'est essayer de repérer sur les ossements toutes les traces qui permettent de savoir ce qui est arrivé à l'os entre le moment où l'animal est mort et le moment où les paléanthropologues ou paléontologues le retrouvent. Et donc j'avais ces ossements en étude et il se trouve que dans l'observation de ces altérations, j'avais des difficultés à partir de la littérature à interpréter certaines de ces traces. Et il se trouve qu'à cette époque-là, personne dans le laboratoire était capable de m'aider. Donc je butais un peu sur mon sujet. Et M. Macchiarelli, nous ayant donné des cours l'année d'avant en paléoécologie et taphonomie, c'était la seule personne dans le laboratoire qui pouvait débloquer cette situation. Et donc je lui ai proposé de venir me donner, de savoir s'il acceptait de me débloquer, de me dire si ce que j'interprétais sur les ossements était réel. Et cet os faisait partie de l'assemblage.
Et donc, pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, ce fémur, vous ne pensez pas que c'est un fémur d'origine humaine ou appartenant à un ancêtre humain ?
Non, parce que moi, dans la liste que j'ai, il a un numéro d'inventaire qui d'ailleurs est à 3 numéros du crâne de Toumaï, donc vraiment très proche, donc probablement trouvé le même jour, et on en a eu la preuve bien plus tard. Il est noté comme indéterminé, que ce soit au niveau du type d'os et au niveau du taxon.
Il était un peu passé inaperçu, hein, finalement.
Alors il était passé inaperçu, effectivement. Il était quand même, c'était un des plus gros ossements que j'avais dans mon étude qui était indéterminé.
Donc il pique votre curiosité.
Il pique la curiosité parce qu'il a une courbure particulière, parce qu'il y a des traces taphonomiques très intéressantes dessus, et il y a un remplissage particulier qui m'a fait effectivement arriver à l'idée de le trancher et de faire des analyses dessus. Mais il avait intrigué déjà plusieurs personnes et c'était une belle pièce.
Vous en avez eu l'idée, vous ne l'avez pas fait. Ce fossile
n'a pas été tranché. Même si on l'a vu exhibé en studio, il était encore en un seul morceau. Ce qu'il en restait encore en un seul morceau.
Roberto Macchiarelli, vous êtes donc invité à venir ausculter de près ce fossile. Que se passe-t-il ?
Oui, hautement invité, je dois dire, j'avais refusé en première invitation de la part d'un des deux directeurs de stage, justement pour des raisons de discrétionnalité. Le chantier Tchad n'était pas mon chantier, quoique je suis remercié dans la première publication sur la revue Nature.
Ne nous donnez pas trop de détails techniques. Allez-y sur l'histoire. Dites-vous que nous, c'est vraiment savoir ce que vous avez découvert sur cet os.
J'ai mis 15 secondes à identifier ce fémur. Je vous demandais de son origine. C'est un peu mon métier quand même.
Oui. Donc pour vous, tout de suite, c'est un fémur humain ou en
non,
tout cas
c'est pas humain. De primate. C'est un fémur de primate.
De primate. Oui. Je vais trop vite.
C'est une diaphyse, un morceau, un bon morceau, 25 cm qui a passé inaperçu quand même. Oui, c'est un fémur de primate. J'ai mis 15 secondes.
Aude Bergeret, ça veut dire qu'en 2002, les équipes de Michel Brunet sont passées à côté de ce fémur, alors qu'en 15 secondes, M. Macchiarelli a vu que c'était un os de primate. C'est ça qu'il faut retenir ?
Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que, comme l'a dit Michel Brunet, des ossements, ils en ont vu, ils en ont beaucoup. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Je ne suis pas à la place des équipes. Je ne sais pas comment est-ce que cette pièce a circulé dans les mains des équipes. Probablement qu'elle a été vue si elle a été trouvée le même jour, parce que j'imagine que quand ils sont rentrés de mission avec cet assemblage, ils ont regardé effectivement tout ce qui avait été trouvé. Mais encore là, je m'avance, je ne peux pas le dire. Mais
vous avez pu terminer votre étude de ces échantillons ?
Alors, je suis partie au Tchad après justement que Monsieur Macchiarelli, parce qu'à partir du moment où il m'a amenée à la détermination en me posant des questions, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé aussi, je suis partie au Tchad, donc j'ai pu compléter ma formation avec un encadrant sur place, et quand je suis revenue, que j'ai voulu repasser les ossements à la lumière de ce que j'avais appris, effectivement, j'ai pas pu les revoir parce que je ne les ai plus trouvés dans le laboratoire.
Le fossile.
Et le fossile non plus. Mais
disparu.
Les autres aussi. Oui.
Tout votre matériel d'étude avait disparu temps de ce voyage d'étude au Tchad.
C'est ça.
Roberto Macchiarelli, donc vous avez eu ce fossile dans les mains quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Pourquoi on n'en entend parler que maintenant, j'ai envie de dire, dans la presse ?
Justement, le débat restait très confiné dans le domaine scientifique. Des collègues s'interrogent régulièrement. L'attribution de cette nouvelle forme de vie extraordinaire de Sahelanthropus est discutée, disputée. Même son identité peut être rattachée à une autre qui est, forme, qui est celle de, d'Ardipithèque, qui a, aurait une priorité du point de vue formel. Je pense que par contre, ces spécimens pourraient apporter effectivement une preuve définitive de l'identité du Sahelanthropus et de son statut dans la nature, de sa position dans l'évolution des primates en général.
Donc vous reprochez aujourd'hui aux équipes tchadiennes de ne pas avoir publié de résultats concernant ce fémur ?
Absolument.
Est-ce que le temps de la recherche parfois n'est pas plus long que ces 15 ans qui se sont passés?
Tout à fait. Mais tenez en considération que Toumaï a été publié et l'article est soumis 6 mois, exactement 6 mois après l'identification sous le, de Michel Brunet au Tchad en septembre 2001. Et Abel avait été a pris environ 1 an et demi pour être
un autre
publié,
fossile, un autre fossile marquant pour la lignée humaine,
etc. Michel a voulu publier les choses, surtout l'a bien fait. Là, ça fait 14 ans et surtout, il n'y a pas que le temps. Il y a le négationnisme. Il y a une démentie pour plusieurs années et de l'existence de cet objet qui est peut-être embarrassant.
Ce que vous reprochez, c'est vous accusez d'avoir un peu mis sous le tapis ce fossile parce que, comme si on s'était un peu reproché de ne pas l'avoir tout de suite identifié, et plutôt que de reconnaître cette erreur, on a préféré ignorer son existence.
Oui, et j'ai eu le temps de réfléchir que peut-être dans un autre pays, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, une histoire de ce type ne serait jamais produite.
Alors, vous parlez dans la presse quand même de fraude intellectuelle, pardon, de mensonges, de dissimulation de preuves. Est-ce que vous avez saisi le comité d'éthique du CNRS, par exemple ?
Tout à fait. Je saisis le comité d'éthique. Le comité d'éthique, un organe très important, et qui est tout à fait ses positions dans la réflexion et jamais dans l'intervention. Je n'ai pas un jugement sur ça, mais nous avons en France pas mal d'institutions qui sont là pour afficher un positionnement, mais pas pour aller trop loin dans l'application concrète.
Alors, je voudrais profiter, c'est une coïncidence, hein, on n'a pas monté le plateau exprès pour ça, mais de la présence de Catherine Bréchignac, qui a été présidente puis directrice du CNRS.
Non, j'ai été directrice générale puis présidente.
Oui, alors dans l'autre sens.
Je suis restée longtemps à la tête du CNRS, et c'est même moi qui ai remis en place le comité d'éthique avec Jean-Pierre Bourguignon comme président. Alors, donc, je suis tout à fait très très sensibilisée à l'éthique.
Alors, vous pouvez à la fois réagir à cette histoire en particulier, et puis plus généralement, on a l'impression que pour une fois, on assiste à des débats de scientifiques qui parfois ne sortent pas dans la presse. Mais là, on se rend compte quand même que la science, c'est aussi une affaire d'hommes qui ne sont pas toujours d'accord. Il y a aussi des égos à gérer hein, dans tout ça, on le sent.
Oui. C'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, l'irrésistible envie de savoir, parce qu'on a envie de savoir, les scientifiques ont envie de savoir, on a tous envie de savoir, et donc on ira jusqu'au bout. De toute façon, quoi qu'il arrive, on prendra le temps qu'il faudra, il faut prendre le temps de penser, c'est ma conclusion, et on ira jusqu'au bout parce que la cohorte des scientifiques ira jusqu'au bout. S'il y en a certains qui font des erreurs, tant pis, on avancera quand même. Donc je crois qu'on est dans cette histoire un peu tous dans le même bateau. Il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de discuter, et les discussions entre scientifiques ont été complètement épiques. On en a eu à l'Académie des sciences qui était absolument affolante, sur l'atome par exemple, on en a eu sur la génération spontanée, on en a eu même sur le climat. Enfin, on a toujours de toute façon énormément de discussions. Je crois que c'est vraiment très important de les avoir. Alors, elles restent parfois confinées, effectivement, comme vous l'avez dit, dans le milieu scientifique, mais parfois elles sortent du milieu avant d'avoir été complètement, je dirais, décortiquées et interprétées. Bon, à mon sens, c'est pas très grave. Après tout, on a le droit de se tromper, on a le droit d'avancer, de prendre des chemins de traverse. Et j'aime beaucoup la phrase de Victor Hugo qui dit « la science va se raturant elle-même ».
Ah, Effectivement. Alors, ça n'est qu'une rature après tout.
Non. Oui, tout à fait. Au départ, oui. Après, peut-être, une erreur est devenue une faute. Mais de toute façon, la charte d'éthique qui a été signée de Singapour par le CNRS en 2012, vous êtes bien placé pour le savoir, on dit que les chercheurs doivent communiquer rapidement et ouvertement leurs résultats pour en établir la propriété intellectuelle et l'antériorité.
Tout à fait.
Et si je ne me trompe pas, mais ça vaut rien, hein, soit clair, la propriété intellectuelle de la découverte du spécimen et de Haute Bergeret et de Roberto. Deuxième point, les chercheurs doivent informer l'autorité responsable de tout soupçon de manquement à l'intégrité, incluant la fabrication de données, la fraude, le plagiat ou toute autre conduite irresponsable, susceptible de brigner, etc.
Je pense que vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu.
Moi, j'allais dire de remettre une pièce dans la machine. Je pense qu'Axel, vous allez devoir refaire un nouvel épisode avec
Michel
Mathieu Vidard,
qui, je pense, ne va pas forcément apprécier que vous attribuez la propriété intellectuelle de la découverte de l'os de Toumaï. Mais ce n'est pas moi d'en juger.
C'est une opinion.
Voilà. Bon. Alors, suite au prochain numéro, Axel.
Et Michel Brunet, il faut le rappeler, a promis une publication sur le fémur de Toumaï. Roberto Macchiarelli, vous avez révélé l'affaire. Est-ce que vous êtes satisfait? Votre mission est terminée. En deux mots, s'il vous plaît.
Oui. Okay. Ma mission est terminée. J'ai essayé de débloquer une situation très embarrassante au niveau international. C'est aux collègues de Poitiers qui sont compétents de publier et de porter à la lumière et d'ouvrir un débat, un véritable débat scientifique.
Merci Roberto Marcarelli et Aude Bergeret d'être venus apporter votre éclairage sur cette polémique autour de ce fémur. Et Axel Villard, à la semaine prochaine.
À lundi.